un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Avec Karine Leloët. L'histoire se passe à Puy-Saint-Pierre, un petit village des Hautes-Alpes, perché sur les hauteurs de Briançon. Une commune de 550 habitants avec une vieille chapelle en pierre et une église du 15e siècle. Un de ces endroits où plusieurs générations d'une même famille se succèdent au fil des décennies, des siècles parfois. À Puy-Saint-Pierre, c'est le cas de la famille Enfou. Marcel Enfou, son dernier représentant au village, est un paysan de 65 ans qui vit seul, depuis la mort de sa sœur, dans une maison sans eau ni électricité. Sauf que Marcel a une richesse. Il possède des terrains et quatre autres maisons, délabrées aussi certes, mais situées juste à côté du domaine skiable de la célèbre station de Serre-Chevalier. Cinq maisons, donc, en tout, si on compte celles qu'il habite, estimées à près d'1 million d'euros. Mais Marcel n'est pas franchement intéressé par l'argent. Alors il décide de mettre à disposition ses logements en échange de travaux réalisés par les nouveaux occupants. C'est en tout cas l'accord tacite qui prévaut jusqu'en 2009, avant qu'un événement inattendu, une rencontre, bouleverse la vie de Marcel et de tout ce petit village. Une histoire racontée par Antoine Guériman.
Je suis Sandrine de Villard. J'ai rencontré Marcel courant 2009. Je passais mes vacances à Serre-Chevalier. J'ai rencontré Monsieur Lajeanne pour des promenades à poney pour ma fille. Il m'a présenté un couple qui m'a fait rencontrer Marcel, car c'est un ami à eux. Quand j'ai rencontré Marcel la toute première fois, il m'a fait beaucoup de peine. Il vivait dans une maison qui était vraiment délabrée. C'était assez sale, assez sombre. Je se chauffais avec une poêle à bois qui fonctionnait très, très mal. Et ça sentait vraiment la suie chez lui. Il y avait beaucoup de bazar. En fait, on n'avait pas de place pour s'asseoir, quasiment. Il fallait pousser les meubles chaque côté autour de nous pour papoter, boire un verre ensemble. Marcel, je trouvais malheureux, très triste. Et assez maigre aussi. Il me parlait de sa vie, de son passé, en tant qu'éleveur de vaches. Il avait perdu ses parents, sa sœur aussi, qui s'était suicidée. Il racontait aussi que ses occupants ne payaient aucun loyer, qu'ils n'avaient rien pour payer sa nourriture. Et je lui avais promis de lui apporter à manger quand je reviendrai le voir.
Alors au départ, je pense que une personne résidente dans la vallée s'est préoccupée de Marcel, mais pour peut-être profiter un peu de lui au point de vue de ses terres et de ses maisons.
Lui, c'est Jean Barnéou, l'ancien maire de Puy-Saint-Pierre.
Elles étaient très bien situées, mais c'était des vieilles maisons. C'était pas de l'or, pas du tout. Il passait plus ou moins pour marginal. Il refusait tout, il voulait pas d'habits, il voulait. Des fois tu lui portais à manger, il n'en voulait pas. C'était comme ça, c'était Marcel. On était de 1954, la naissance s'est plus ou moins bien passée, les forceps lui ont défoncé la boîte crânienne. Et Marcel a gardé un peu cette différence, quoi. C'est vrai que son physique était un peu pas très attrayant, quoi. Mais Marcel, il n'était pas bête du tout. Il lisait beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
Intérieurement, Marcel, c'était quelqu'un de très beau. Pour moi, c'était quelqu'un de très intelligent, très instruit, hein, et il avait très bon cœur. Il était très calme, très rigolo, et je le trouvais très attachant en même temps. Donc on s'est beaucoup rapprochés, et par la suite, la pitié s'est transformée en amour. Et ça a été vraiment réciproque, et jusqu'au jour où Marcel m'a demandé en mariage.
Un jour, il est revenu donc avec sa femme, aujourd'hui, me dire qu'il voulait se marier, Ça me paraissait un peu drôle, vu que Madame Buvillard, c'était une fille impeccable, bien sapée, bien... Bon, et c'était un peu surprenant que Marcel, comme il était, il y ait un lien là-dessus. Et j'ai dit, oui, bien sûr, mais j'ai demandé quand même l'avis du procureur, parce que je craignais, ce n'est pas un mariage normal.
C'était Monsieur le procureur qui avait fait établir une liste de questions. Et ça m'a touchée profondément qu'il y ait une enquête. Ça a été frustrant et choquant. C'était surtout à la demande des occupants, hein, parce que ce sont eux qui s'opposaient à un autre mariage, de peur que je les fasse expulser. Parce que, ils bénéficiaient tous de la gratuité des logements.
Alors, Marcel, un jour, il était venu en mairie me voir, mais c'était bien avant, hein, Madame de Villard. Et il me dit, j'ai donné l'autorisation à des personnes pour retaper ma maison et il me donne 50 euros par mois. 50 euros, hein. Et bien, j'ai dit, Marcel, si t'es arrivé à trouver des gens qui sont honnêtes et tout, pourquoi pas, j'en sais rien.
Marcel passe alors un accord informel avec des gens du coin qui s'installent dans ses maisons contre des travaux. Parmi eux, il y a Mathieu.
J'habite une vieille baraque qui appartenait à Marcel Enfou. J'ai un de mes frères là, qui se lançait dans le maraîchage. Et ils utilisaient des terrains que Marcel leur avait mis à disposition. Et au bout de quelques mois, il m'avait dit « Ah bah écoute, il y a Marcel, m'a proposé d'habiter à la maison, toi, autant ça peut te brancher avec des copains, vous bricolez bien. » Du coup, c'est comme ça qu'après on allait demander à Marcel. Donc il nous a fait visiter la maison. Et quand il a refermé la porte... Il a dit que de malheur, que de malheur. J'étais là, ah bon ? Alors pourquoi il nous dit ça ? Peut-être que ça lui rappelait des souvenirs de sa tante décédée, sa sœur décédée, ses vaches disparues. Mais vu l'histoire qui en a découlé, une espèce de descente pas aux enfers, mais presque. Cette phrase m'est restée dans la tête. Illustrer un petit peu ce passage-là de sa vie aussi, au final, en anticipant ce qui allait se passer. Franchement, on s'entendait bien et ouais, souvent il s'arrêtait boire le café quand il était de passage, parce qu'il était tout le temps à pied, à se balader à droite, à gauche quand il était pas sur son tracteur. On se filait des coups de main mutuellement, quoi. Je suis allé l'aider à mettre des bacs aciers sur un toit d'une de ses baraques qui partait vraiment en cacahuète. Sa baraque, quand il rentrait, ça faisait un petit couloir, et puis autour, c'était rempli de choses. Et il récupérait tout ce qu'il pouvait, quoi. Des postes de télé, il en avait, je sais pas combien. Il avait des tonnes de magazines, de cartons, de... passait son temps à glaner des... en se disant que ça pourra toujours servir un jour. Souvent, tu passais et tu le voyais assis sur la marche qui donne sur la porte de sa maison, et il bouquinait. Son livre préféré, c'était Jacou le Croquant. Au début, il y a eu un accord oral, on a commencé à faire des travaux, on était hyper enthousiastes, trop contents, et puis voilà, on découvrait un peu la magie de la chaux, du sable. Donc cette maison, elle était dans un tel état, complètement insalubre, quoi. Sur les murs, c'était, il y avait des centimètres de poussière, d'enduit pourri, tout était noir de suie. Pendant quand même deux ans, on n'avait pas l'eau courante. Une fois qu'on avait rénové une pièce de vie, là, on a pu s'installer un peu mieux... Et Marcel, quand il est arrivé, il était hyper content que la maison puisse rester debout, parce que lui, il n'a jamais voulu vendre ses baraques, en fait.
Marcel n'a jamais vu les 50 euros. Et après, il a vu qu'il avait fait une bêtise. J'ai fait avoir, quoi.
Pour moi, Marcel était sous la coupe de ses occupants, parce qu'il me disait qu'il lui faisait énormément de pression.
Ces gens-là allaient le rencontrer souvent là-bas chez lui... Et Marcel, il ne pouvait plus rien faire. Il avait quand même un peu la trouille aussi, en parlant poliment. Et non plus, il n'a plus revu les maisons.
La première fois que j'ai entendu parler de sa relation avec Sandrine de Villard, elle était là avec lui. Elle me dit qu'elle veut acheter les maisons de Marcel. C'est le premier contact que j'ai eu avec elle. Et Marcel, il était tout mal à l'aise à côté d'elle. Et elle dit, si, je vais acheter toutes les maisons de chez Marcel. En gros, bientôt, vous serez plus là. C'est terminé. Voilà, c'est le premier contact que j'ai eu avec elle, qui était assez désagréable. Et quelques mois après, il y a eu cette idée de mariage. Bah, moi, il m'en a parlé parce qu'il me demandait des conseils. Toi qui es en concubinage, comment ça se passe? Je disais que c'était a priori pas normal de se marier à la va-vite. Et puis après, il y a eu le mariage qui s'est enchaîné. Peut-être entre le moment où il m'a dit qu'on lui avait proposé ça, c'est passé peut-être 3 mois, quoi. Il m'avait dit oui, ils veulent que ça aille vite. Elle est très très pressée. Il faut qu'on soit mariés au plus vite. Voilà.
Le jour du mariage, dehors, il y avait plus d'une centaine de personnes, des curieux qui venaient parce que c'était Marcel. Et ça a failli mal se passer parce qu'il y avait les squatteurs de Rochagarne. Et je dis, ça va finir mal.
Dans la salle, il y a eu des cris de la part des occupants qui disaient qu'il fallait surtout pas nous marier, que j'allais tuer Marcel, que j'allais vendre tous ses biens, que j'allais le pomper, prendre tout son fric. Enfin, ils parlaient vulgairement. C'est comme s'ils voulaient nous impressionner en voulant nous faire peur. Bon, je sentais mon cœur battre à 100 à l'heure. Moi, j'ai eu peur. Monsieur le maire, plusieurs reprises, il disait « taisez-vous ». Il tapait avec son poing sur la table.
C'est arrivé à calmer un peu le jeu, mais c'était mal parti. Tout pour dire, aujourd'hui, j'avais prévenu la gendarmerie qui s'était cachée un peu plus haut. Et je leur avais dit, si j'ai besoin, il y aura 2 coups de téléphone qui vous diront...
Je me souviens qu'il y a des ados du village qui balançaient des rouleaux de PQ au moment où la mariée est passée, quoi. You'll ever learn is just to love
and be loved in return.
Quelques jours après, on a fait notre lune de miel. Marcel est resté quelques semaines à Paris. Je lui ai fait découvrir plusieurs musées, des monuments historiques. On a fait pas mal de balades, un peu de shopping aussi. Puis après, c'était dans le projet, soit il venir s'installer à Paris, ou soit moi venir s'installer chez lui. Mais ce n'était pas possible, surtout par rapport à ma fille, parce que chez lui, il n'y avait ni eau ni électricité. Marcel ne pouvait plus payer ses factures d'eau, il ne pouvait plus payer ses factures d'électricité. Je peux comprendre, parce que Marcel n'avait que 36 euros par mois pour vivre. Comment voulez-vous faire pour vivre avec 36 euros par mois? C'est compliqué. Il se plaignait tout le temps. Donc, comme depuis le début, Marcel souhaitait faire expulser tous ses occupants, on a fini par faire une procédure à un de ses occupants afin qu'on puisse s'installer dans une maison qui était un peu plus aux normes.
Ça faisait quoi, peut-être un an et demi qu'on était là, 2 ans. Donc on a reçu le courrier comme quoi on a été convoqué au tribunal. Donc nous, on a saisi les services d'une avocate pour se défendre. Et du coup, quand on le voyait, il nous disait « Mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas mon avocat. Moi, je suis pris entre deux feux. Il y a vous que je vous aime bien et que j'aimerais que vous restiez là. Et il y a mon épouse qui dit qu'il faut absolument que je vous fasse expulser de la maison parce qu'on viendra habiter tous les deux dans cette maison-là lorsque vous n'y serez plus. »
Fin octobre 2011, un mois et demi après le mariage, Marcel envoie une lettre à son avocat. Dans ce courrier, il précise qu'il n'a jamais eu de bail avec Mathieu et qu'il veut l'expulser. 11 jours plus tard, il écrit un second texte où il explique qu'il a bien un contrat oral avec ses occupants et qu'il veut les conserver comme locataires. C'est en tout cas ce que montrent des documents du dossier judiciaire. De son côté, Sandrine fait le tour des plateaux télé pour parler de son couple et de son amour. Au printemps 2012, elle enregistre une chanson d'amour pour Marcel et tourne un clip qui fera plus d'1 million de vues sur Internet.
On va saluer Sandrine. Bonjour. Pourquoi êtes-vous installée, Sandrine, face à nos invités?
Donc, je suis mariée avec Marcel, un homme de 67 ans, c'est mon mari. Et les gens pensaient que je m'étais mariée avec lui par intérêt. Et donc, ce n'est pas du tout le cas. Bah, nous avons le projet de vivre ensemble. Puis bon, je me suis lancée dans une activité artistique aussi. Donc, j'ai écrit une chanson faite pour lui.
Quitter la solitude pour retenir un ami, prendre ses mains dans les siennes, s'inventer une nouvelle route et risquer la pauvreté. C'est la belle du soleil, c'est là qu'un goût étranger vient allumer le bonheur, les parfums des fleurs comme les marguerites d'octobre, puis un vent de liberté. C'est la belle du soleil.
S'il était amoureux, j'en ai pas la moindre idée, mais je pense qu'il avait une certaine fierté de devenir enfin, ça y est, j'ai une femme, j'ai une épouse. Il disait tout le temps ça, c'était un nouveau mot qu'il n'avait jamais utilisé avant. Donc il y a eu une espèce, je pense, de revanche, hein, parce que d'après ce qu'on me racontait, c'est un peu l'ensemble de sa famille qui était rejeté un peu du reste de la communauté villageoise. Il y a toujours un peu cette typologie de famille dans les villages, quoi, ceux qui sont un peu les boucs émissaires, ceux qui sont à part, ceux qui sont en dehors. Moi, j'ai eu cette impression que ça lui redonnait une espèce de stature, qui devenait enfin quelqu'un, quoi. Mais ça n'a pas duré très longtemps.
J'ai dû confisquer le tracteur de Marcel, parce que ce couple avec qui nous sommes amis m'avait indiqué qu'il n'avait pas son permis. Et que s'il lui arrivait quoi que ce soit, en tant qu'épouse, j'étais aussi responsable que lui. Donc j'ai pris peur et c'est pour ça que j'ai accepté à ce que le couple fasse appel à un mécanicien pour qu'il démonte son tracteur. Et au début, c'était un petit peu la guerre entre moi et Marcel, parce qu'il était malheureux de ne plus avoir son jouet. Le jouet, c'était son tracteur.
Le tracteur, c'était ce qui le faisait exister, en fait. Exister socialement. Il a passé plusieurs décennies avec son tracteur à livrer du fumier ou à aller mettre un coup de charrue. Il se rendait utile auprès du village. Et donc là, c'est là qu'il y a quelque chose qui démarre dans sa tête. Enfin, l'idylle, on va dire, du début où ça y est, il devenait quelqu'un. D'un coup, on le dépossédait au final de sa vraie raison de vivre qui était son tracteur, quoi.
Après, par la suite, ça s'est résolu parce qu'il a fini par accepter que je lui offre son permis. Et il était heureux.
Et donc, je me souviens un passage, je passe devant chez lui, et là, il était assis comme quand je le voyais en train de bouquiner la littérature. Et il est avec un livre de code. Et c'est le code de la route de 1976. Et après, il allait se présenter à l'école, à l'auto-école de Briançon pour passer son code. Et à chaque fois, c'était l'échec total. Donc, ça le démoralisait. Et en fait, en tant qu'agriculteur, tu n'as pas besoin de permis. On ne peut pas t'imposer de passer le permis de voiture, tu as le droit de conduire ton tracteur. Il était quand même dans un état... Enfin, il y avait eu un premier traumatisme qui était la saisie de ses vaches. Un autre traumatisme dont il parlait peu, c'était la disparition de sa sœur. Puis, le nouveau traumatisme, on va dire... était la disparition de son tracteur, quoi. Enfin, comme il le disait, le sabotage de son tracteur.
Puis vient cette soirée du 28 novembre 2012. Marcel est en voiture avec un couple d'amis, ceux qui lui ont présenté Sandrine.
Une demi-heure après que je sois rentré chez moi, les pompiers m'appellent. Ils me disent, putain, il y a Marcel qui a eu un accident à Saint-Pierre, il faut que tu viennes. Mais Marcel était conscient. Il avait mal, il était conscient. Bon, ils ont quitté la route un peu avant d'arriver à Puy-Saint-Pierre et ils ont fait 10 mètres. Et après, ils ont encore fait des tonneaux en bas. Ça a fait une hémorragie interne. Il aurait été attaché, il s'en sortait probablement comme le chauffeur. Hein.
Quand j'ai appris le décès de Marcel, j'étais à Paris. C'est le mécanicien qui m'a appelé, c'est celui qui a démonté le tracteur de Marcel. Il devait être 23 heures passées, pas loin. Donc de là, j'ai pris la route toute la nuit. Le matin, je suis arrivée devant l'hôpital, la gendarmerie m'attendait. Ils m'ont emmenée au poste et j'étais en garde à vue pendant 48 heures. Et ils m'ont dit qu'ils voulaient enquêter sur l'accident, qu'ils avaient de gros doutes, comme quoi j'étais complice avec le couple. Il fallait que justifier que j'étais bien à Paris à ce moment-là. Il fallait que je raconte comment j'ai rencontré ce couple, de quelle façon, et pourquoi j'étais amenée à passer mes vacances à Serre Chevalier pour la toute première fois. Il fallait que je raconte toute ma vie, alors que je venais de perdre mon mari, oui.
Ouais, ça me... C'était triste, voilà. J'ai du mal à y croire, quoi. Puis ça s'est tout emballé médiatiquement. Il y a eu plein de gens qui ont écrit au procureur, qui ont disant que c'était un meurtre. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est juste un virage, a priori, qui a été loupé. Mais tous les éléments étaient là pour le roman noir, quoi. Il y a eu une banderole le matin de l'enterrement qui a été accrochée sur la maison de Marcel. Où il y avait marqué « Marcel, sans ce mariage, tu seras encore sur ton tracteur ». Je me souviens que moi je suis arrivé là-bas, j'avais écrit un petit texte pour Marcel qui racontait un peu sa vie. Et le père Gournay commence la messe et donc il demande d'abord à la veuve en fou de pas rendre la parole. Du coup, elle fait un truc un peu hors sol et hors contexte, en disant « Dieu est grand, Dieu est grand ». Ça lui appartient, mais personne n'a trop compris. Après, il a fallu aller saluer une dernière fois le cercueil de Marcel dehors, là, avant qu'il soit mis en terre. Et puis on était après sur le parvis de l'église, là. Puis d'un coup, on entend des hurlements.
Madame en fou, c'était surprenant. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai, allez, cette fille, elle fait partie d'une secte ou un truc comme ça. Parce qu'elle était prête à sauter dans la fosse. Bon, qu'elle ait du chagrin, ça je peux pas le nier. Mais de là à opérer comme elle opérait, à crier, à hurler, non. C'est pas comme ça que je vois l'affaire.
Quelques mois plus tard, un testament est retrouvé dans une des maisons occupées de Marcel. Sur le papier, il est écrit « Je lègue mes maisons à leurs occupants actuels et rien à ma femme ».
Ce testament est faux, à moins peut-être qu'il ait écrit sous la contrainte, ça se peut. Déjà, il a été découvert dans des situations assez troublantes, chez l'occupant. Bon, moi, de mon côté, je vois mal déposer des papiers personnels chez un de mes locataires.
Marcel avait besoin du courant, quoi. Donc, il avait accès à des prises électriques. Il y avait plusieurs endroits selon où il était sur la montagne. Du coup, ce testament a été retrouvé à cet endroit-là où il allait souvent, quoi. Je sais qu'elle avait déposé plainte après pour abus de faiblesse, tentative d'extorsion... escroquerie, faux usage de faux. Il y a eu le testament, permettez-moi l'expression, j'étais sur le cul, quoi. S'il y a un moment, je me souviens que j'étais vraiment triste que ça soit passé comme ça, quoi. Je me disais, putain, mais Marcel, il est mort. Il n'aura pas pu récupérer son tracteur. Et là, il disparaît. Et on est seul face à son épouse qui va en découdre avec nous, quoi. Et quand j'ai appris qu'il y avait le testament, tout à coup je fais « Putain, mais Marcel, en fait, il nous a pas abandonnés, bordel !»
Sandrine lance une procédure au pénal pour faire annuler le testament. Mais l'expertise graphologique estime qu'il a bien été écrit par Marcel et elle perd le procès. Elle commande alors une contre-expertise qui conclut que l'écriture de Marcel a peut-être été imitée. Elle décide alors d'entamer une nouvelle action en justice qui est toujours en cours.
Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps avec la justice et tout. J'ai passé à autre chose. Maintenant, je suis mère au foyer. Moi, je fais ma vie de mon côté. Hein. Je continue ma vie. Hein. Et je vais aller jusqu'au bout pour récupérer mon héritage parce que le testament est réellement faux. Quelque chose me dit au plus profond de moi va jusqu'au bout. Ce Marcel, pour moi, c'est quelqu'un qui ne mérite pas cela. Il a été énormément bafoué, qui était vraiment mis à l'écart jusqu'au jour où il m'a rencontré. Alors, ça y est, après, tout le monde venait le voir. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'hypocrisie. Et c'était véritablement le souhait de Marcel d'être avec moi, de m'aimer, de fonder une vie de famille, d'avoir droit à l'amour comme tout homme sur Terre.
Ben moi, j'habite toujours la maison dont il m'a légué les murs, quoi. Et du coup, ben, je continue petit à petit à la rénover. Et puis, cette maison, 1749, ils l'ont bâtie. C'était pas possible qu'elle termine comme ça, là, livrée sous l'autel de la spéculation immobilière, quoi. C'était trop triste. Il y est passé des générations et des générations, des gosses. Donc lui, quand il était gamin, quoi, vu que lui c'était le dernier et qu'il a jamais voulu vendre quoi que ce soit, c'était à la fois sentimental et puis l'histoire de sa famille. Et puis, comme le disait bien le curé, c'est toute la vie d'une certaine population des montagnes. C'est tous ces paysans d'un autre temps qui vivaient encore à l'ancienne comme on vivait il y a 100 ans.
J'aime les gens qui doutent, les discrets, les silencieux, vieux, ceux que personne n'écoute, ceux qui se perdent en cours de route, ceux qui passent entre les gouttes, les réservés, ceux qui marchent en dedans. J'aime ceux qui groovent sur un autre temps, un peu maladroit, un peu lent, ceux dont les appuis vacillent à contre-vent. J'aime ceux dont le nom dit en dit long, loin des slogans grandiloquents bidons. Ceux dont le nombril ne fait pas d'ombre, il s'efface. Ni pigeon, ni leader d'opinion. Ceux qui restent à l'écart quand l'assurance de l'arrogance avance. Qui se questionnent en permanence. Ceux qui n'ont pas de réponse, ni fer de lance. À leurs yeux, la grande gueule n'a guère de sens. J'aime les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent.
Oui, j'aime les gens qui doutent.
C'était Mariage d'un ermite. Un reportage d'Antoine Guériman réalisé par Jeanne Cherquefos. Merci à Maya, Patricia, Sandrine, Jean, Mathieu, Jimmy, à maître Charles Lavergnas ainsi qu'à Lucie. Céline Paris, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Flavie Champion, notre stagiaire.
La peur de mal faire les terrifie, les hante. Ceux dont la voix parfois déchante. Eux, ils ne détiennent jamais de vérité. Sont toujours en retrait, tu peux le vérifier. Éternel apprenti rempli d'humilité. Eux, s'ils ne veulent pas la lumière, c'est par timidité. J'aime leurs soucis d'imperfection, leur hésitation à chaque nouvelle intersection. Leurs mesures, leurs tenues, j'aime leur perception. Leur prise de recul avant l'interjection. J'aime les gens qui doutent.
J'aime les gens qui doutent.
Oui, j'aime les gens qui doutent.